Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence, ensemble, en tant que ton Église. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es là avec nous. Et nous voulons être conscients de toi cet après-midi, Jésus-Christ, ta présence. Nous voulons être conscients que tu nous as envoyé ton esprit au milieu de nous pour te glorifier. Et Seigneur Jésus, cet après-midi, au travers de cet enseignement, que tu sois glorifié, Jésus-Christ, que tu sois élevé. Seigneur, que nous puissions être formés, que nous puissions être changés, que nous puissions peut-être trouver une nouvelle manière de faire, Seigneur, pour te servir. Seigneur, fais que notre mentalité devienne flexible, Seigneur. Que nous puissions nous adapter à comment ton œuvre veut agir, Seigneur. À ce que tu veux faire, Seigneur. Aide-nous pas à ne pas résister, mais à se laisser guider par toi, Seigneur. Et merci pour ton esprit qui me permet de parler, qui me permet de partager. Merci pour l'onction, au nom de Jésus. Amen. Il y a des années maintenant, j'étais à Le Puy-en-Velay, vous connaissez, c'est juste au nord d'ici. On a aidé à implanter l'église du Puy-en-Velay dans les années 90, avec ma femme. Et on était là-bas, et j'ai reçu une lettre d'un jeune homme de l'Alabama, aux États-Unis. Un jeune qui allait terminer ses études d'ingénieur dans une des meilleures universités qui forment les ingénieurs aux États-Unis, Georgia Tech. Si vous connaissez un peu le milieu universitaire, c'est un... Je pousse ce truc parce que je vais m'emmêler les pinceaux dedans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis là, mais bon. Voilà. Et il m'a écrit, il m'a dit « Philippe, je m'apprête à terminer ce diplôme et je vais rentrer dans la vie et je vais gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux m'accompagner pour que je sois un disciple de Jésus-Christ, que je sois conséquent avec ma vie, ma manière de passer mon temps, d'investir mon temps ?» et que je sois conséquent avec mon argent. Bon, c'était il y a des années maintenant. Ceux de vous qui vous souvenez des cassettes, vous vous souvenez? Bon. Ben nous, on a démarré une conversation par cassette qui a duré longtemps. Moi, je lui ai envoyé une cassette de 60 minutes... On l'envoyait par courrier, il renvoyait une cassette de 60 minutes. Et on a commencé à faire ça, on l'a fait pendant longtemps, pendant des années. Et ce jeune homme, il a fini son diplôme, il a eu un très bon poste, il a commencé à travailler et il a appris à servir Jésus dans son travail en tant que disciple. On n'était pas que, j'étais pas que celui qui fait un disciple avec lui, c'était devenu un ami. Et cette relation avec lui, par exemple, m'a permis quand son grand-fils a eu une leucémie stage 4 et qu'il a fallu qu'il passe en chimio tout de suite. Ça nous a permis la relation où on a continué à travailler ensemble à distance et arrivé à ce temps-là, on pouvait faire le téléphone. Quand à la fin de la leucémie, qu'il était lessivé, quand il s'est laissé prendre par une addiction à la porno sur Internet, il m'a communiqué tout de suite. Il m'a dit, Philippe, au secours. Tu peux m'aider? On a besoin de parler de ça. Je suis en train de vivre ça. Cette relation avec lui nous a permis de traverser des phases difficiles de la vie. Et parfois, vous savez, faire un disciple, ce n'est pas que l'amener jusqu'à un certain point. En fait, ça peut être une relation qui peut aller dans la vie. Et je suis heureux que 35 ans plus tard, avec ce jeune homme, la relation continue. Il continue à être un homme de Dieu, il continue à servir Dieu, et on continue à être de très bons amis. Pour faire des disciples, on devient l'ami de celui que nous allons former. Et c'est ce que j'ai découvert dans faire des disciples, c'est devenir l'ami. Et parfois, il nous arrive que ça passe par des non-chrétiens aussi. J'étais pasteur dans une ville en France, et je vais à la poste pour chercher le courrier de l'église, et il y a la conseillère conjugale de la ville qui vient me voir. Il me dit, Philippe, je sais que tu fais de la relation d'aide. Est-ce que je peux te voir de temps en temps? J'ai des trucs avec qui j'ai besoin de parler avec quelqu'un pour des trucs qui se sont passés dans mon enfance. Est-ce que je peux te voir? J'ai dit, ben oui, avec joie. Et cette non-chrétienne a commencé à venir toutes les deux semaines à l'église pour un rendez-vous au bureau. Et on a commencé à travailler ensemble sur des choses qui s'étaient passées dans son enfance. Et Dieu a commencé à la guérir. Un jour, elle s'est convertie dans l'entretien. Elle est venue à Jésus. Parce que Jésus a fait un déclic chez elle. Il y a quelque chose qui a décliqué chez elle sur ce qu'est le péché et son besoin de pardon. Et l'injustice, que ce soit Jésus-Christ qui donne sa vie à sa place. Elle est devenue chrétienne ce jour-là. C'était du temps du vin nouveau, vous vous souvenez? On a prié pour elle. Dieu a encore fait des choses merveilleuses avec elle. Mais un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Philippe, notre relation a changé. Je dis, ben oui, je pense qu'elle a changé notre relation. Elle a dit, maintenant, je voudrais que ce que tu as fait avec moi, tu me formes pour que je puisse le faire avec d'autres. Cette dame n'avait jamais été à l'église, n'avait jamais entendu parler de ce que c'est faire un disciple, mais c'est comme si elle a compris quelque chose en étant formée elle-même, qu'elle maintenant devait apprendre pour aider quelqu'un d'autre à apprendre. Et donc, notre relation a changé, c'est vrai, on a continué comme ça. Elle est décédée il y a une dizaine d'années dans cette ville, mais elle a donné 30 ans de sa vie dans ce village de témoignage de Jésus-Christ, comme conseillère conjugale de la ville. Et j'ai eu le privilège de faire partie de son petit voyage. C'était génial. Et parfois, faire des disciples, ça commence quand ils ne sont pas chrétiens, vous savez. On n'est pas obligé de commencer avec quelqu'un qui est chrétien. Parfois, des gens sont en approche et on a besoin de leur dire, tu veux apprendre? T'as envie? L'apôtre Paul nous donne un verset qui est précieux dans Galates 4:19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Pour nous les hommes, on va l'écouter une deuxième fois. Les femmes, elles comprennent tout de suite, mais les hommes, on va l'écouter une deuxième fois. D'accord ? « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Paul utilise ce langage pour nous donner une image qui est quand même assez... qui est dans la culture de Paul, que l'apôtre Paul, un pharisien, prendre un exemple comme ça pour parler d'une réalité spirituelle, c'était assez osé de sa part. Mais pour les femmes qui ont eu des accouchements, vous savez la douleur que c'est. Vous savez, nous les hommes, on peut pas comprendre. Mais vous comprenez. Et l'apôtre Paul essaie de prendre cette douleur de l'enfantement comme la douleur qu'il éprouvait pour que Christ soit formé dans ces Galates, ces hommes, ces femmes de la Galatie auxquels il écrivait. Et souvent, lorsque nous sommes en train de former des personnes, on a l'impression... dans le discipulat, que ça passe presque par ces douleurs de voir l'image du Christ émerger dans cette personne, de voir cette transformation. Vous souvenez, j'ai dit, lorsque vous faites des disciples, vous construisez pour l'éternité. Pour moi, construire pour l'éternité, ça a du sens. Parce que notre troisième enfant est décédé en France, au Puy-en-Velay. Et j'ai un lien avec cet autre monde, déjà. Je sais qu'un jour, j'irai vers lui, ce garçon. Et... lorsque j'investis du temps avec des hommes ou des femmes pour les aider à grandir en Christ, pour les aider à ce que cette image du Christ soit formée en eux, que Christ soit formé en eux, lorsque je prends du temps pour faire cela, je construis pour l'éternité, pour toujours, et je ne sais pas ce que Dieu va faire avec eux. J'aimerais vous encourager avec quelque chose que nous avons vécu avec ma femme. Un privilège immense. Nous étions pasteurs dans une église en France et nous allions partir l'été pour un nouveau poste. Mais on ne savait pas où nous partions. Et nos enfants étaient encore jeunes, des ados. Et avec ma femme, on se posait des questions tous les jours. Vous savez comment c'est, hein, quand on ne sait pas ce qu'on va faire prochain, ça vous fait réfléchir. On s'inquiète parfois. Comme par hasard, il y avait une missionnaire du Burkina Faso que l'Église soutenait depuis des années, qui allait venir pour partager avec une journée d'Église. C'est-à-dire, on démarre le culte le matin, on fait un repas en commun à midi, on passe toute l'après-midi ensemble pour que ces hommes et ces femmes de cette église fassent connaissance d'une missionnaire, une Française qui est décédée maintenant au Burkina Faso. Donc, on s'est retrouvés à ce repas et Denise, elle s'appelait, elle m'a dit, « Mais Philippe, j'entends que vous allez partir d'ici. Vous ne savez pas où vous allez encore. » Ben oui, Denise, on ne sait pas encore. Elle a dit, écoute, et si je peux parler avec toi et ta femme, j'ai une proposition. Donc, elle nous a dit, j'ai 40 jeunes professionnels dans la ville de Kaya au Burkina Faso. Ce sont tous des avocats, des professeurs, des médecins, des enseignants, des techniciens, des juges qui voudraient être formés pour servir Dieu, mais ils ne peuvent pas prendre le temps, une année, deux années, pour partir à l'école biblique. Et je me posais la question, si on ne peut pas amener l'école biblique à eux. Et tu viens et on prend ce groupe, on travaille avec eux pendant 6 mois, 1 an. On est allé là-bas, avec nos petits-enfants, avec nos enfants. C'était content, les enfants. On habitait dans un village. Ils couraient de partout, les frondes. Il y avait 40 bébés dans l'orphelinat. Ma petite fille était aux anges. Et on a commencé à travailler avec ce groupe de 40 jeunes. On se voyait 4 soirs par semaine. Et on a commencé à étudier ensemble la vie de Jésus-Christ. Et à partir de la vie de Jésus-Christ, comment les disciples sont formés. On a commencé à louer ensemble. On les a aidés à évoluer au niveau de leur louange. Prier ensemble. On a passé 7-8 mois ensemble. Et puis les week-ends, vous savez ce qu'on faisait? On partait de Kaya, on allait implanter des églises dans la partie musulmane de Burkina Faso. C'était l'école. Ces jeunes, ils étaient chez nous le jour et la nuit, dans notre petite maison. Ils venaient visiter, ils venaient poser des questions. Quand on prend le temps de faire former, de faire des disciples des jeunes, comme ça, parce que ma femme et moi, nous avons passé du temps seuls avec ces jeunes aussi. Lorsque nous prenons le temps de former quelqu'un pour être lui-même un disciple qui va former d'autres, on ne sait jamais ce que Dieu va faire avec eux. Et j'étais complètement bluffé quand, 14 ans plus tard, je retourne au Burkina Faso pour voir qu'est-ce qu'il en est de ces jeunes. J'ai découvert... Il y en avait un qui avait implanté 55 églises dans la partie nord du Burkina. Il y en a un autre qui était responsable pour les ADD pour 250 églises. Un autre était député ministère de la Justice. Ces jeunes, ils étaient partis avec ce que nous avions eu le privilège de partager avec eux. Ils sont allés partout au Burkina Faso. Ils ont refait la même chose partout où ils ont été. Quand vous prenez le temps de former quelqu'un, vous prenez le temps de vous investir dans la vie de cette personne, vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec eux. Ça vaut le coup. C'est un merveilleux investissement de temps, ça. Et puis... on n'a pas tout su, parce qu'il y en avait d'autres dont on n'a pas su ce qu'ils faisaient. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que quand ils sont partis du Burkina, après cette formation, ils ont amené l'enseignement qu'ils ont reçu, ils l'ont reproduit partout où ils sont allés au Burkina. Et ça, ils ont commencé à faire des disciples eux-mêmes. J'aime pas le mot « multiplier les disciples » parce que ça paraît vraiment, ça paraît banal presque. Mais en fait, faire des disciples, on ne sait jamais ce que celui ou celle que vous allez former, vous ne savez jamais ce qu'elle va faire pour servir Jésus-Christ. Et... je vais en parler un peu plus cet après-midi et ce soir, mais il y a une implication relationnelle
que nous avons besoin de prendre lorsque nous prenons le temps de former un disciple. Ça veut dire que je vais prendre 2 heures avec quelqu'un, peut-être en individuel, et on va travailler pendant 2 heures ensemble. Ça veut dire que je vais investir 2 heures en lui ou en elle. Ça veut dire que je vais prendre 2 heures que je ne pourrais pas passer avec quelqu'un d'autre. Mais cet investissement de temps, avec l'aide de votre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qu'il vous a donné, vous ne savez pas ce que Dieu va faire au travers des jeunes que vous allez mentorer et faire des disciples avec. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Mais il faut s'investir relationnellement. Parfois, ça veut dire même être vulnérable. Dire ce que ne va pas dans notre vie non plus. Vous savez, si je fais des disciples, je suis loin de parfait. Et ça, j'ai besoin de le dire à ceux que je suis en train d'accompagner. Je ne suis pas arrivé. Nous sommes tous en train d'arriver. Nous sommes tous en train de découvrir comment suivre Jésus-Christ. Mais l'implication relationnelle, un à un, une implication dans le temps, c'est tellement important. Ce que j'ai découvert au Burkina avec ce groupe-là a été pour moi un laboratoire d'expérimentation, de faire des disciples. Ça m'a beaucoup appris. En fait, en regardant, en me souvenant de cette période, je me souviens de l'investissement du temps qui a été fait. Alors, nous vivons dans une période où le temps, il est compliqué. Si on va prendre du temps pour être avec quelqu'un qui est en formation, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Nous avons besoin d'apprendre à créer des priorités de temps dans notre vie. Peut-être que ça voudra dire que on ne va pas regarder autant de séries à la télé qu'on en regarde. Ou qu'on va passer un peu moins de temps à regarder les infos, parce qu'il y a les maniaques de l'info aussi, des infos aussi. Je ne sais pas si vous avez ça en France. On a ça aux États-Unis. Regarde 24 heures. Ici, c'est BFM. Là-bas, c'est CNN et Fox. Ils sont collés là. Breaking news. Les nouvelles. Les nouvelles, nouvelles qui arrivent. En fait, c'est la même chose pendant 3 heures. Prendre le temps, investir le temps que Dieu nous a donné pour accomplir des choses qui comptent. Lorsque vous investissez avec quelqu'un pour l'aider à suivre Jésus-Christ, c'est un investissement qui va avoir un impact éternel. Mais il y a un autre aspect à être quelqu'un qui fait des disciples, qui vont former des disciples. Nous avons besoin d'être un modèle. Ouh là 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 là. Parce que Jésus n'a pas simplement commandé les disciples d'enseigner ses paroles. Il leur a dit d'enseigner à obéir. C'est facile d'enseigner les paroles. Mais Jésus a dit, enseignez à obéir ces paroles. Et si on regarde ces hommes du Nouveau Testament, les Paul, les Timothée, les Pierre, on va regarder un peu plus tard certains aspects de leur relation avec les jeunes qu'ils avaient. Nous voyons des hommes et des femmes qui étaient des exemples de ce qu'ils allaient enseigner, de ce qu'ils allaient partager avec les autres. Si je veux aider à former des disciples, j'ai besoin d'être un modèle. Et être formé des disciples, ça commence par moi-même, je suis un disciple en premier, n'est-ce pas? Vous êtes toujours disciple? Vous êtes toujours en train d'apprendre? Si nous restons dans cette posture d'apprentissage avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons partager, parce qu'on sait qu'on n'est pas arrivé, nous. On sait quelles sont nos batailles. Comment on se bat avec le temps, avec les choses que je fais. Ben, je n'ai pas vraiment besoin de faire ça. C'est bien, mais ce n'est pas utile. Enseigner à obéir. Je ne peux pas demander à un disciple d'obéir à quelque chose si je ne suis pas moi-même obéissant, n'est-ce pas? C'est le principe même de l'exemple. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous nous référons toujours à Christ comme notre exemple. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 2,21, il nous dit, « Il vous a laissé un exemple que vous devriez suivre. » Frères et sœurs qui faites des disciples, il nous a laissé un exemple que nous devrions suivre. Frères et sœurs qui vont devenir des disciples, il vous a laissé un exemple que vous devriez suivre. L'exemple ne se communique pas avec les mots seulement non plus dans la vie. Hein. L'exemple, ça passe par notre manière de vivre, notre manière d'être avec les autres. Je suis frappé par le nombre de désaccords qu'il y a dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, des trucs qui sont arrivés avec la sœur un tel ou le frère un tel, il y a 15 ans, et c'est toujours au travers de la gorge. On n'a pas appris à pardonner. C'est le basique, mes frères et sœurs, ça. Apprendre à pardonner. Et puis apprendre à s'humilier devant les autres. Mon ami Aref en Afghanistan, j'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui, une chose qui te touche, qui est importante que j'ai pu t'apporter? Il m'a dit, Philippe, tu m'as appris à demander pardon. Quand tu t'es trompé, tu es venu me demander pardon, tu vas dire, tu as eu raison là, Aref, c'est moi qui ai eu tort, je te demande pardon. C'était la première fois qu'on me demandait pardon. Si nous voulons former des disciples, nous avons besoin d'être des exemples. Et nous avons besoin que notre cœur soit libre de ces relations qui vous laissent des os en travers de la gorge et qui vous rappellent quelque chose peut-être. Si je peux comparer la relation de faire un disciple avec quelque chose que vous comprenez, ce sera assez proche d'un apprentissage au travail. Vous vous souvenez comme dans les années précédentes, on prenait des jeunes, ils faisaient un apprentissage de plombier, un apprentissage de charpentier, et ils travaillaient avec quelqu'un qui connaissait le boulot, et il était censé être à côté du gars, le regarder, faire exactement comme il faisait. C'était une relation dans le temps. Le maître maçon, le maître charpentier a pris du temps pour investir pour que ce jeune apprenne. C'est un des aspects de cette relation avec les disciples. Un autre aspect, ce serait l'entraîneur sportif. Ça vous est arrivé de faire du coaching en salle de gym? C'est-à-dire, vous demandez au coach dans la salle de gym de dire, écoute, il faut que je travaille sur ce muscle-là, tu peux m'aider? Ah ouais, je peux t'aider là. Et puis il vous met par terre et puis vous commencez à bosser. Et c'est douloureux parfois. Parfois, accompagner les disciples, ça peut être comme cette relation avec cet entraîneur et cette personne qui veut apprendre et qui veut améliorer son corps, ses muscles. Parfois, ça peut être comme un coach personnel. On connaît bien le rôle du coach dans notre société aujourd'hui. Hein. Vous entendrez parler de coach ci, le coach qui fait ça, le coach qui vous accompagne, le coach de votre vie. Eh bien, c'est quelqu'un qui investit du temps avec vous, qui prend du temps pour être avec vous. Mais aussi, ce matin, je pense que c'est Alissa qui a parlé de cet aspect le plus basique et le plus important du discipulat, c'est le rôle de nous, parents, avec nos enfants. Ce sont les premiers disciples, n'est-ce pas? C'est les premiers disciples. Et parents, vous savez le temps que vous avez investi avec vos enfants. Ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de l'amour, mais ça vaut le coup, parce qu'on investit pour l'avenir, on investit pour l'éternité avec nos enfants. Le discipulat, c'est inviter les autres à vous imiter. Et c'est là que ça fait peur. Je vous dirais franchement, moi ça me fait peur. Je sais que j'ai des défauts. Je sais que parfois je me mets en colère dans la voiture. Quand quelqu'un me... Vous savez, le truc qui roule devant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais quels sont mes boutons pour que je réagisse. Je sais ce que Dieu a besoin et travaille sur moi. Ce qu'il a besoin de changer en moi. Si je veux aider les autres, il faut qu'ils puissent imiter notre manière d'être, d'agir et de faire. Dans 1 Corinthiens 11:1, il est dit par l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». L'exemple que nous donnons est parfois dans les pires périodes de notre vie. On n'en est même pas conscient que les personnes autour de nous regardent et ils ont un exemple de comment suivre Jésus au milieu de la perte d'un enfant, au milieu d'un cancer, au milieu d'une injustice qui a été faite. Comment nous réagissons. Mais en tout moment, frères et sœurs, nous sommes des exemples les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul parle de ce rôle des aînés en Christ qui sont des exemples pour ceux qui sont plus jeunes. L'Église, c'est une histoire de génération. Nous sommes en train de former une génération. Et nous ne savons jamais quand nous allons être l'exemple pour les autres qu'ils vont retenir, dont ils vont se souvenir. Pour ma femme et moi, nous avons constaté que c'est dans les pires moments de la vie, en fait, que Dieu a été le plus glorifié et que nous avons pu donner un exemple à d'autres pour comment suivre Jésus quand on traverse perdre un enfant, par exemple. Dieu s'est servi de ces périodes difficiles pour nous, pour être la formation d'autres. Vous allez dire, mais est-ce qu'il va faire ça avec moi? Mais je pense qu'il l'a déjà fait, frères et sœurs. Et vous en êtes conscients de ces moments difficiles. Vous vous souvenez de ces moments difficiles. Vous vous souvenez de la pression que vous sentez de toutes parts. Et au milieu de cette pression, qu'est-ce qui ressortait? L'odeur du Christ ressortait. Et ceux qui vous regardaient, ils disaient, je veux être comme ça. Je veux suivre Jésus comme ça. En Afghanistan, on a monté une école de leadership avec, je rapproche du, voilà, comme ça. On a monté une école de leadership et chaque année, nous avions, on a 4 écoles actuellement, et chaque année, nous avons 25 étudiants qui ont passé une année avec des missionnaires qui sont là pour les former, pour devenir des leaders. Bien sûr, de ces leaders, il y en a qui ne sont pas des chrétiens. Il y en a qui deviennent des chrétiens pendant cette année de formation intense. Parce qu'ils vivent 4 soirs par semaine avec les missionnaires qui sont là avec eux. Ils vivent une relation de mentorat. Mais à la fin de cette année, nous voyons toujours le changement qui s'est effectué dans les jeunes. C'est pourquoi les jeunes étaient formés dans la vie de tous les jours. Donc lorsque, en Afghanistan, nous étions en train d'essuyer le deuil pour 12 missionnaires qui venaient d'être tués par le Taliban, et on était en train de former 25 jeunes pour devenir des leaders, comment nous allons réagir était important. Parce que c'était une leçon pour eux sur l'injustice qui se passe dans ce monde. Pour le mal inique qu'il y a dans ce monde. Et ils nous regardent faire. C'est avec tremblement que je vous dis ça, que les gens vont vous imiter. Ils vont m'imiter. Vous vous souvenez quand vos enfants étaient petits et votre fils ou votre fille faisait quelque chose? T'as vu, c'est juste comme maman. Mais ils vont nous imiter. C'est pour ça que ceux qui vont former des disciples, nous avons besoin de cultiver, d'approfondir notre relation avec Dieu. Et j'aimerais vous poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de lire actuellement? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous montrer actuellement? Voilà les questions pour le petit groupe d'ailleurs. D'accord? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire actuellement qui est en train de vous édifier en Christ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre de Dieu? Si nous sommes en apprentissage, nous pouvons aider les autres qui sont en apprentissage. Mais le jour où on s'assoit, comme je l'ai fait tout à l'heure, on s'assoit sur ce qu'on a appris et on dit, je suis arrivé, c'est fini. Alors dans le Nouveau Testament, il y a des exemples qui nous sont donnés. Alors, quelle heure j'arrête, Paul? Il est 6h15. Hein. J'entends. À quelle heure j'arrête? Tout à l'heure, on va regarder un petit peu comment, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de ces relations de discipulat avec des hommes comme Paul, comme Marc, comme Timothée. Comment la Bible nous parle de ces relations où des jeunes apprennent à servir Dieu. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. D'accord ? Mais entre vous, petit groupe de 8 à peu près, je pense, 8-10, qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec Dieu ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans votre vie ? C'est difficile comme question, hein ? Mais ce sont des questions que nous avons besoin de parler de ça ensemble pour apprendre ensemble. Alors, je vous admets que la pluie, c'est distrayant quand même. C'est distrayant pour tout le monde. Mais que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs, d'être des hommes et des femmes qui peuvent être imités pour que d'autres grandissent et apprennent à servir Jésus-Christ. Il nous donne la grâce de le faire, frères et sœurs. Amen.